Chapitre 7. Poursuite. La paix entre les six duchés et le royaume des montagnes était relativement récente à l'époque du règne du roi royal. Des décennies durant, le royaume des montagnes avait conservé une mainmise aussi absolue sur ses cols que les six duchés sur le commerce qui transitait par les fleuves froides et serres. Le négoce et la circulation entre les deux régions étaient régulés de façon unilatérale par chacun des pouvoirs au détriment des deux. Toutefois, pendant le règne du roi subtil, des contrats commerciaux mutuellement profitables furent établis par le roi servant chevalerie des six duchés et le prince rurisque des montagnes. La pérennité et l'efficacité de cet arrangement se virent consolidées quand, plus de 10 ans plus tard, la princesse des montagnes Kétriken devint l'épouse du roi servant Vérité. À la mort prématurée de son frère aîné, Rurisque, à la veille de son mariage, Kétriken devint seule héritière de la couronne de son royaume. Il sembla ainsi, pendant quelque temps, que les six duchés et le royaume des montagnes dussent partager un jour le même souverain et finir par ne former qu'un seul pays. Mais les circonstances réduisirent cet espoir à néant. Les six duchés étaient menacés de l'extérieur par les pirates et déchirés de l'intérieur par les chamailleries des princes. Le roi subtil fut assassiné. Le roi servant Vérité disparut lors d'une mission au loin, et quand le prince royal s'empara du trône, sa haine envers Kétriken était telle qu'elle crut devoir se réfugier dans ses montagnes natales afin de protéger l'enfant qu'elle portait. Royal, roi autoproclamé, vit dans cette fuite la rupture d'une promesse d'abandon de territoire. Ses premières tentatives pour installer des troupes dans le royaume des montagnes, prétendument pour garder les caravanes marchandes, furent repoussées par les montagnards, et ses protestations et ses menaces n'eurent d'autre effet que de hâter la fermeture des frontières au commerce des six duchés. Ainsi contrarié, il se lança dans une vigoureuse campagne visant à discréditer la reine Kétriken et à susciter une haine patriotique à l'encontre du royaume des montagnes. Son but ultime semblait évident, s'approprier, par la force si nécessaire, les territoires des montagnes pour en faire une province des six duchés. Pourtant, le moment était mal choisi pour ce genre de stratégie. Les régions qu'il possédait de plein droit étaient soumises au siège d'un ennemi extérieur qu'il ne paraissait pas avoir la capacité ni la volonté de vaincre. Jamais aucune force militaire n'avait conquis le royaume des montagnes, et c'était cependant ce à quoi il semblait s'acharner. Quant à savoir pourquoi il tenait tant à annexer ce territoire, c'est une question qui, à l'origine, laissa perplexe tout un chacun. La nuit était limpide et froide. Le clair de lune suffisait à nous montrer les tours et détours de la route, mais guère plus. Je restais quelque temps simplement assis dans le chariot à écouter le bruit des sabots sur la terre battue, tout en essayant de digérer les derniers événements. Astéri prit les couvertures que nous avions emportées de ma cellule et les secoua, puis elle m'en donna une et se drapa l'autre sur les épaules. Elle se tenait recroquevillée, à l'écart de moi, le regard tourné vers l'arrière. Elle avait manifestement envie qu'on la laisse tranquille. J'observais un moment la lueur orangée d'œil de lune qui s'affaiblissait dans le loin. Puis mon esprit se remit à fonctionner. « Caudron ? » lançai-je par-dessus mon épaule. « Où allons-nous ? »
« Loin d'œil de lune !» répondit-elle.
Je perçus de la lassitude dans sa voix. Astéri sursauta, puis me regarda. « Nous pensions que vous nous le diriez ?»« Où sont partis les contrebandiers ? » demandai-je. J'eus l'intuition du haussement d'épaule de la ménestrelle plus que je ne le vis. Ils n'ont pas voulu nous le dévoiler. Ils ont dit que, si nous allions vous libérer, nous devions les quitter. Ils paraissaient croire que Ronce enverrait des soldats à vos trousses, quels que soient les dommages infligés à Œil de Lune. Je hochai la tête, davantage pour moi qu'à son intention. C'est vrai, il va me rendre responsable de l'attaque, et on fera courir le bruit que les assaillants étaient des soldats venus du royaume des montagnes pour me tirer de prison. Je me redressai et m'écartai discrètement d'Astéri. Quand on nous rattrapera, on vous tuera aussi.
Il n'était pas dans nos plans de nous laisser rattraper, remarqua Caudron.
Et les soldats n'y arriveront pas si nous nous y prenons bien, promis-je. Faites arrêter les chevaux. Caudron n'eut guère besoin de les forcer.
Il n'avançait plus depuis longtemps que d'un pas fatigué. Je lançai ma couverture à Astérie, descendis et contournai le chariot. Œil de Nuit sauta lui aussi à terre et me suivit avec curiosité.
« Que faites-vous ? »
demanda Caudron comme je dégrafais les harnais et les laissais tomber dans la neige. « Je modifie l'attelage des chevaux afin qu'on puisse les monter. Savez-vous chevaucher à cru ?» Tout en parlant, je me servais du poignard de la garde pour trancher les rênes. Qu'elle sût ou non, Caudron devrait aller sans selle.
« Bien obligé, de toute façon !»
grommela-t-elle, en descendant à son tour du chariot.
« Mais nous n'irions pas bien vite, à deux sur ces chevaux !»«
Astérie et vous n'aurez aucun problème, » fis-je. « Il vous suffira de continuer d'avancer. » Debout dans le chariot, la ménestrelle me regardait. Je n'avais pas besoin de voir son visage pour savoir qu'il exprimait l'abasourdissement.
« Vous nous quittez ? Alors que nous vous avons libéré ?»
Je ne voyais pas la situation sous cet angle.
« C'est vous qui me quittez, » repris-je d'un ton ferme. « Une fois qu'on est sorti d'Œil de Lune en direction des montagnes, Jaampe est la seule grande ville en vue. Avancez à une allure régulière, mais ne vous rendez pas tout de suite à Jaampe. C'est ce à quoi Satan ronce. Trouvez un hameau quelconque et restez-y caché un moment. La plupart des montagnards sont gens hospitaliers. Si vous n'entendez pas parler de poursuite, continuez jusqu'à Jaampe. Mais voyagez le plus vite et le plus loin possible, avant de vous arrêter pour demander le gîte ou le couvert.
« Et vous, qu'allez-vous faire ?»
demanda Astérie à mi-voix. « Œil de Nuit et moi allons partir de notre côté, comme nous aurions dû le faire depuis longtemps. Nous voyageons plus vite seuls. »«
Je suis revenu vous libérer, »
dit Astérie d'une voix près de se briser, outrée par ma défection.
« Je suis revenu, malgré tout ce qu'on m'a fait, malgré ma main et tout le reste. »
« Il détourne l'ennemi de notre piste !»
intervint soudain Caudron. « Vous avez besoin d'aide pour monter à cheval ? » demandai-je à la vieille femme.
« Nous n'avons besoin d'aucune aide de votre part !»
s'exclama la ménestrelle d'un ton furieux.
Elle secoua la tête. « Quand je pense à tout ce que j'ai souffert pour vous suivre, et à tout ce que nous avons fait pour vous libérer, sans moi vous auriez brûlé vive dans votre cellule !»
Je sais. Je n'avais pas le temps de lui expliquer.
« Adieu, »
dis-je à mi-voix. Je m'éloignais dans la forêt, Œil de Nuit à mes côtés. Les arbres se refermaient autour de nous, et les deux femmes disparurent à notre vue. Caudron avait promptement perçu le fond de mon plan. Dès que l'incendie aurait été maîtrisé, voire avant, Ronce penserait à moi. On trouverait le vieux tué par un loup, et on ne croirait pas une seconde que j'avais péri dans ma prison. La poursuite s'engagerait aussitôt. On enverrait des cavaliers sur toutes les routes qui menaient aux montagnes, et ils auraient au fait de rattraper Caudron et Astérie, sauf si les chasseurs avaient une autre piste, plus difficile à suivre, une piste qui couperait à travers champs et bois plein ouest, droit vers Jaampe. Ce ne serait pas facile. Je n'avais pas une connaissance précise du pays qui s'étendait entre moi et la capitale du royaume des montagnes. Il ne devait guère y avoir d'agglomération, car les montagnes avaient une population clairsemée, composé surtout de trappeurs, de chasseurs et de bergers nomades, gardiens de chèvres et de moutons qui vivaient de préférence dans des masures isolées ou des hameaux entourés de vastes territoires de chasse et de piégeage. Je n'aurais sans doute guère l'occasion de dérober ou de mendier de quoi me nourrir. Cependant, je m'inquiétais davantage de me retrouver au pied de quelques falaises impossibles à escalader ou d'avoir à franchir à gué l'une des nombreuses rivières glacées qui descendaient en torrents impétueux les ravins et les étroites vallées du pays.
« Inutile de nous faire du souci tant que le chemin est libre, »
fit Œil de Nuit.
« Si nous sommes bloqués, il faudra simplement trouver un moyen de contourner l'obstacle. Ça nous ralentira peut-être, mais nous n'arriverons jamais nulle part si nous restons là à nous ronger les sangs. »
Nous marchâmes donc toute la nuit, le loup et moi. Quand nous traversions des clairières, j'observais les étoiles pour essayer de conserver autant que possible un cap plein ouest. Le terrain s'avérait aussi difficile que je l'avais supposé, et je m'arrangeais pour suivre des trajets plus accessibles à un homme et un loup à pied qu'à des hommes à cheval. Notre piste menait par des versants encombrés de broussailles et des gorges resserrées aux taillis enchevêtrés, où je me consolais de mes efforts en imaginant l'avance que prenaient au même moment Astérie et Caudron sur les routes. Je préférais ne pas songer que Ronce dépêcherait des traqueurs en nombre suffisant pour suivre plus d'une piste. Non,
Il me fallait progresser au plus vite, puis pousser Ronce à envoyer toutes ses forces à ma poursuite. Et la seule façon que je voyais d'y parvenir était de me présenter comme une menace pour Royal, une menace dont il faudrait s'occuper sans attendre. Je levai les yeux vers le sommet d'une crête. Trois immenses cèdres groupés s'y dressaient. Je décidai d'y faire halte, d'allumer un petit feu et de tenter d'artiser. Comme je n'avais pas d'écorce elfique, je devais m'arranger pour pouvoir ensuite me reposer longuement.
« Je veillerai sur toi !»
m'assura Œil de Nuit. Les cèdres étaient gigantesques, et leurs branches formaient un entrelac si dense qu'à leurs pieds le sol était vierge de neige. En revanche, il était couvert d'un tapis épais et odorant de petits morceaux de ramures tombés au cours des ans, dont je me fis une couche afin de m'isoler du froid de la terre. J'allais ensuite ramasser du bois pour entretenir le feu. Pour la première fois, je jetai un coup d'œil dans la bourse que j'avais récupérée, et j'y trouvai un silex, ainsi que 5 ou 6 pièces de monnaie, des dés, un bracelet cassé et enveloppé dans un bout de tissu, une mèche de cheveux fins. C'est le résumé trop parfait de la vie d'un soldat. Je préférais ne pas me demander si c'était un enfant ou un amant que la femme laissait derrière elle. Elle n'était pas morte de mon fait. Néanmoins, une voix glacée murmura au fond de moi. « Catalyseur. Sans moi, elle serait encore en vie. » L'espace d'un instant, je me sentis vieux, là, et le cœur au bord des lèvres. Puis, par un effort de volonté, je chassai la soldate et ma propre vie de mes préoccupations. J'allumai le feu, l'alimentai convenablement et entassai le reste du bois à portée de ma main. Après quoi, je m'emmitouflai dans mon manteau et m'allongeai sur ma couche en écorce de cèdre. Je pris une inspiration, fermai les yeux et artisai. J'eus l'impression de basculer dans une rivière rapide. Je ne m'étais pas attendu à réussir si facilement et je faillis me laisser emporter. En cet endroit, le fleuve d'art paraissait plus profond, plus impétueux et plus puissant. Mais était-ce dû à un renforcement de mes capacités ou à autre chose? Je l'ignorais. Je me trouvais, me centrais sur moi-même et affermis résolument ma volonté contre les tentations de l'art. Je m'interdis de songer qu'il m'était loisible d'envoyer ma pensée à Molly et à notre enfant, de voir, de mes propres yeux, comment la petite grandissait et comment elles se portaient toutes deux. Il n'était pas question non plus de contacter Vérité, si fort que j'en eusse envie. L'intensité de son art était telle que je ne doutais nullement de le trouver. Mais ce n'était pas la tâche que je m'étais fixée. J'étais là pour provoquer l'ennemi, et je devais rester sur mes gardes. Je dressais toutes les protections qui ne me coupaient pas de l'art et tournais ma volonté vers Ronce. Je me tendis avec précaution, prêt à ériger instantanément mes murs en cas d'attaque. Je le trouvais sans mal, et je fus presque effrayé de le sentir inconscient de mon contact. Puis sa souffrance me traversa comme un trait de feu. Je me rétractai plus vivement qu'une anémone de mer dans une flaque laissée par la marée. À ma propre surprise, j'ouvris les yeux et vis au-dessus de moi des branches de cèdre chargées de neige. Mon visage et mon dos étaient baignés de sueur.
« Qu'est-ce que c'était ?»
demanda Œil de Nuit inquiet. « Je ne le sais pas plus que toi, » répondis-je. « C'était de la douleur à l'état pur. » Une douleur indépendante du corps, qui n'était ni chagrin ni peur, une douleur totale, comme si toutes les parties du corps, à l'intérieur comme à l'extérieur, étaient immergées dans du feu. Et c'était Royal et Guillot qui la causaient. Je restais tremblant, non pas de ma séance d'art, mais de la souffrance de Ronce. C'était une monstruosité trop grande pour être appréhendée par l'esprit. J'essayais de faire le tri des sensations que j'avais captées durant ce bref instant. Guillot, et peut-être une ombre de l'art de Carod, immobilisait Ronce pendant sa punition. De la part de Carod, j'avais perçu une horreur et une aversion mal dissimulée pour cette tâche. Peut-être craignait-il un jour en être victime à son tour. La principale émotion de Guillot était la colère, due au fait que Ronce m'avait tenu en son pouvoir et m'avait laissé échapper. Mais, sous cette ire, il y avait une sorte de fascination pour ce que Royal infligeait à Ronce. Pourtant, Guillot n'y prenait aucun plaisir. Pas encore. Mais Royal, si. À une époque, j'avais connu Royal. Pas très bien, il est vrai. C'était simplement le plus jeune de mes oncles, celui qui ne m'aimait pas et qui manifestait son animosité de façon puérile, en me bousculant, en me pinçant par en dessous, en me taquinant et en faisant courir des bruits sur moi. Son attitude ne me plaisait pas. Lui-même ne me plaisait pas, mais la situation restait presque compréhensible. C'était la jalousie d'un adolescent dont le frère aîné, et héritier désigné de son père, avait engendré un nouveau rival qui détournait le temps et l'attention du roi subtil. Autrefois, c'était simplement un jeune prince trop choyé, envieux de ses grands frères qui le précédaient dans la succession. Il était gâté, grossier et égoïste, mais il était humain. Ce que je percevais aujourd'hui chez lui était presque incompréhensible, tant cela dépassait ce que j'étais capable de concevoir dans le domaine de la cruauté. Les forgisés avaient perdu leur humanité, mais dans leur néant flottait l'ombre de ce qu'ils avaient été. Je n'aurais pas été plus choqué si Royal avait ouvert sa poitrine pour me dévoiler un nid de vipère. Il avait rejeté son humanité pour quelque chose de plus noir. Tel était l'homme que les six duchés appelaient le roi. Tel était l'homme qui allait lancer des troupes à la poursuite d'Astérie et de Caudron. « J'y retourne, » dis-je à Œil de Nuit, et sans lui laisser le temps de protester, je fermai les yeux et me jetai dans le fleuve d'art. Je m'ouvris à lui pour absorber sa froide puissance, sans m'arrêter à songer qu'en trop grande quantité, c'est elle qui me dévorerait. À l'instant où Guillot sentit ma présence, je m'adressai à eux. « Tu mourras de ma main, Royal, aussi sûrement que vérité régnera de nouveau. » Puis je projetai contre eux la puissance que je venais d'accumuler. Ce fut presque aussi instinctif que donner un coup de poing. Je ne l'avais pas prévu, mais je compris soudain que vérité s'y était pris ainsi à gué de négoce. Il n'y avait pas de message, rien qu'un déchaînement furieux de force. Je m'ouvris grand et me montrai à eux, puis, alors qu'ils se tournaient vers moi, j'utilisai ma volonté pour les écraser à l'aide de la moindre parcelle d'art que j'avais absorbée. À l'instar de vérité, je donnais toute ma puissance, et je crois que si je n'avais eu qu'un adversaire, j'aurais réussi à calciner son art. Mais en l'occurrence, ils partagèrent le choc. J'ignore quel en fut l'effet sur Ronce. Peut-être se réjouit-il de ma violence, car elle fracassa la concentration de Guillot et le libéra des tortures raffinées de Royal. Je sentis le hurlement aigu de terreur que poussa Carode en rompant le contact. Guillot, lui, aurait peut-être tenté de me résister si Royal ne lui avait pas ordonné d'une faible pensée. « Décroche-toi de lui, idiot! Ne me mets pas en danger sous prétexte de vengeance !» Et en un clin d'œil, ils disparurent. Le jour était déjà levé depuis longtemps, quand je repris conscience. Œil de Nuit était à demi couché sur moi, et il avait du sang sur son pelage. Je le repoussai mollement, et il se releva aussitôt, puis me renifla le visage. Je sentis l'odeur de mon propre sang par son museau. C'était révulsant. Je me redressai brusquement, et le monde tournoya autour de moi. Peu à peu, je captai la clameur des pensées du loup. « Tu vas bien ?» Tu tremblais, et puis tu t'es mis à saigner du nez. Tu n'étais plus là. Je n'arrivais plus à t'entendre. « Je vais bien, » répondis-je d'une voix rauque. « Merci de m'avoir tenu chaud. » Il ne restait plus de mon feu que quelques braises. À geste précautionneux, j'y rajoutai quelques bouts de bois. Quand il eut repris, je me réchauffai aux flammes. Ensuite, je me levai et me dirigeai à pas titubant vers la neige, à l'aplomb des branches. Je m'en frottai le visage pour me débarrasser du goût et de l'odeur du sang, puis j'en pris une bouchée, car j'avais la langue épaisse et pâteuse. « As-tu besoin de te reposer? Veux-tu manger ?» me demanda Œil de Nuit d'un ton anxieux. « Oui, et oui. Mais surtout, nous devions nous sauver. Ma dernière action allait certainement attirer nos ennemis sur nous. J'avais réalisé mon plan, et il avait réussi au-delà de tous mes espoirs. À présent, il n'aurait de cesse qu'il ne m'ait détruit. Je leur avais aussi indiqué clairement où je me trouvais, et ils sauraient intuitivement où dépêcher leurs hommes. Je ne devais plus être là à leur arrivée. Je retournai auprès de mon feu, y jetai de la terre et le piétinai pour m'assurer qu'il était éteint, puis nous nous enfuîmes. Nous nous déplacions aussi vite que je le pouvais. Naturellement, j'allais moins vite qu'Œil de Nuit, et il me regardait d'un air apitoyé pendant que je peinais dans une montée, embourbé jusqu'aux hanches dans une neige qu'il survolait d'un pas léger, en écartant simplement les doigts des pattes. Souvent, quand j'implorais une halte et m'arrêtais contre un arbre, il courait en avant pour trouver le meilleur chemin, et quand le jour et mes forces déclinaient, et que je faisais du feu pour la nuit, il disparaissait un moment et revenaient avec de la viande pour nous deux. La plupart du temps, c'était du lièvre des neiges, mais il rapporta une fois un castor gras qui s'était aventuré trop loin de son trou d'eau, pris par la glace. Je me jouais la comédie et faisais semblant de faire cuire ma viande, mais je me contentais en réalité de la roussir superficiellement au-dessus du feu. J'étais trop fatigué et trop affamé pour faire mieux. Ce régime ne me faisait certes pas grossir, mais au moins il me maintenait en vie et en mesure de me déplacer. Je dormais rarement à point fermé, car il me fallait sans cesse alimenter mon feu de peur de geler sur place et me lever à plusieurs reprises au cours de la nuit pour taper des pieds dans la neige afin de leur rendre leur sensibilité. Tout se résumait à une question d'endurance. Il ne s'agissait pas pour moi de faire preuve de rapidité ni de force, mais chichement, de faire durer ma capacité à faire chaque jour un pas après l'autre. Je gardais mes murs inébranlablement dressés, ce qui ne m'empêchait pas de sentir les coups de boutoir de Guillot. Je ne le pensais pas en mesure de me suivre à la trace tant que je me protégeais, mais je n'en avais pas la certitude. Et cette constante vigilance mentale puisait-elle aussi dans mes forces? Certaines nuits, j'avais envie de laisser tomber mes protections et de le laisser entrer pour qu'il m'achève une fois pour toutes. Mais, en ces occasions, il me suffisait de songer à ce dont Royal était désormais capable pour qu'un trait de terreur me transperce et m'incite à tirer davantage sur mes réserves pour mettre une plus grande distance entre lui et moi. Quand je me réveillais le quatrième matin de notre voyage, je sus que la frontière du royaume des montagnes était loin derrière nous. Je n'avais pas relevé le moindre signe de poursuite depuis notre départ d'œil de lune. Si loin à l'intérieur du pays de Ketriken, nous devions être en sécurité.
Combien de chemin reste-t-il jusqu'à Jaamp, et que ferons-nous une fois là-bas?
Je ne connais pas la distance, et j'ignore ce que nous ferons. Pour la première fois, je réfléchis à la question, et me contraignis à penser à tout ce à quoi je ne m'étais pas autorisé jusque-là. À proprement parler, j'ignorais ce qu'il était advenu de Ketriken depuis le soir où elle s'était enfuie du cheval du roi. Elle ne m'avait pas envoyé de nouvelles, et je ne lui en avais pas fait parvenir de moi. Elle avait dû accoucher, et selon mes calculs, son enfant devait avoir à peu près le même âge que ma fille. Une soudaine curiosité me prit. J'allais pouvoir prendre ce bébé contre moi et me dire « Ainsi, voici l'effet que me ferait de tenir ma petite dans mes bras. » Oui, mais Ketriken me croyait mort, exécuté par Royal et enterré depuis longtemps, d'après ce qu'on avait dû lui rapporter. Néanmoins, c'était ma reine et l'épouse de mon roi. Je devais pouvoir lui révéler que j'étais toujours vivant. D'un autre côté, lui dévoiler la vérité reviendrait à réveiller le chat qui dort. À la différence d'Astéri, de Caudron et de ceux qui avaient déduit mon identité a posteriori, Ketriken m'avait connu autrefois. Mon existence ne serait ni une rumeur, ni une légende, ni le récit échevelé d'une personne qui m'aurait entreaperçu, mais un fait établi. Elle pourrait déclarer à ceux qui m'avaient fréquenté « Oui, je l'ai vu et il est vivant. Par quel miracle ? Mais grâce à son vif, bien sûr. » Tout en pataugeant dans la neige derrière Œil de Nuit, je me demandais quelle serait la réaction de Patience lorsqu'elle apprendrait que je n'étais pas mort, la honte ou la joie. Serait-elle peinée que je ne l'ai pas mise dans la confidence? Par Ketriken, la nouvelle pourrait se propager à tous ceux qui m'avaient connu, et elle finirait par arriver aux oreilles de Molly et Burik. Quel serait l'effet sur Molly d'apprendre ainsi, de si loin, non seulement que j'étais vivant et que je n'étais pas retourné auprès d'elle, mais que j'étais marqué par la tare du vif? Elle m'avait eu le fait qu'elle portait notre enfant, et j'en avais eu le cœur fendu. Pour la première fois, j'avais entrevu à quel point elle avait dû se sentir trahie et blessée par tous les secrets que je lui avais scellés, et je craignais qu'en découvrir un nouveau de cette importance ne réduise à néant les sentiments qu'elle pouvait encore avoir pour moi. Mes chances de rebâtir une vie avec elle étaient déjà bien minces, je n'aurais pas supporté qu'elle s'amenuise encore. Et tous les autres, les palefreniers que j'avais connus, les hommes aux côtés desquels j'avais combattu et ramé, les simples soldats de Castelserre, tous sauraient que j'avais survécu. Quelle que fût la façon dont je considérais le vif, j'avais vu la révulsion qu'il inspirait sur le visage d'un ami. J'avais constaté le changement d'attitude qu'il avait opéré même chez Astéri. Que penserait-on de Burick, qui avait toléré la présence d'un adepte du vif dans ses écuries? Serait-il montré du doigt, lui aussi? Je serrais les dents. Non. Je devais demeurer mort. Mieux valait peut-être contourner Jahamp et continuer seul ma quête de vérité. Oui, mais sans vivre, j'avais autant d'espoir de la voir aboutir qu'œil de nuit de se faire passer pour un chien de Manchon. Et il y avait un autre petit problème, la carte. Quand Vérité avait quitté Castelserre, ça avait été sur la foi d'une vieille carte que Ketriken avait exhumée des bibliothèques du château. Vieille et passée, elle datait de l'époque du roi Sagesse, qui, le premier, avait rendu visite aux anciens et s'était assuré leur concours pour la défense des six duchés. Les détails s'étaient effacés sur le parchemin, mais tant Ketriken que Vérité avaient la conviction qu'une des pistes indiquées menait à l'endroit où le roi Sagesse avait rencontré ces discrètes créatures. Le roi Servant était parti de Castelserre, résolu à suivre les indications jusque dans les régions ultramontaines, en emportant une copie de la carte exécutée par ses soins. J'ignorais ce qu'était devenu l'original. Sans doute avait-il été transporté à Gué de Négos lorsque Royal avait vidé les bibliothèques de Castelserre. Mais son style et les caractéristiques inhabituelles de sa bordure me faisaient penser qu'il s'agissait d'une copie d'une carte encore plus ancienne. L'encadrement était de style montagnard, et s'il était possible de retrouver l'original, ce devait être dans les bibliothèques de Jahamp. J'y avais eu un accès limité pendant ma convalescence dans les montagnes, et je les savais à la fois bien garnis et bien entretenus. Même si je ne mettais pas la main sur l'original de la carte en question, peut-être en dénicherais-je d'autres couvrant les mêmes régions. Pendant le temps que j'avais passé là-bas, j'avais été frappé par la confiance dont faisaient preuve les habitants du pays. Je n'avais guère vu de verrous ni de gardes comme nous en avions à Castelserre. Il ne devait pas être difficile de s'introduire dans la résidence royale. Même si l'habitude avait été prise d'instaurer des tours de veille, les murs n'étaient constitués que de couches d'écorce crépie d'argile et peintes, et j'avais la conviction de pouvoir les franchir d'une manière ou d'une autre. Une fois à l'intérieur, il ne me faudrait pas longtemps pour fouiller la bibliothèque et dérober ce qui m'était nécessaire, et j'en profiterais pour refaire mes vivres. J'avais le bon goût d'avoir honte de ce plan, mais je savais aussi que cela ne m'empêcherait pas de l'exécuter. Encore une fois, je n'avais pas le choix. Alors que je gravissais lourdement une nouvelle pente couverte de neige, j'avais l'impression d'entendre mon cœur marteler inlassablement ces mots. Pas le choix, pas le choix, pas le choix. Jamais le choix en rien. Le destin avait fait de moi un tueur, un menteur et un voleur, et plus je m'efforçais de m'écarter de ces rôles, plus je me trouvais contraint de les endosser. Œil de Nuit marchait sur mes talons et s'inquiétait de mon humeur morose. Ainsi plongés dans nos pensées, nous parvînmes au sommet de la pente et nous dressâmes là, silhouette stupidement découpée sur le fond du ciel, bien en vue de la troupe de cavaliers qui passait sur la route en contrebas. Le jaune et le brun de leur tunique ressortaient sur le blanc de la neige. Je me pétrifiais comme un daim effrayé. Malgré cela, nous aurions peut-être échappé à leur attention s'ils n'avaient pas été accompagnés d'une meute de chiens. Je les comptais d'un seul coup d'œil, 6 chiens, pas des chiens loups, et d'un merci, mais des bêtes courtaudes faites pour la chasse aux lapins et mal adaptées au terrain et au climat. Il y avait aussi un chien à longues pattes, un corgneau et flanqué aux poils bouclés sur le dos, qui se tenait avec son maître à l'écart de la meute. Nos poursuivants avaient pris ce qui leur tombait sous la main pour nous retrouver. Il y avait cependant une dizaine d'hommes à cheval. Presque aussitôt que nous fûmes apparus, le corgneau leva la gueule et se mit à clabauder. En un clin d'œil, les autres chiens reprirent son appel et tournèrent en rond, le museau dressé pour humer l'air, puis ils captèrent notre odeur et aboyèrent. Le piqueur qui dirigeait la meute pointa le doigt vers nous alors que nous nous sauvions à toute allure. Le corgneau et son maître se précipitaient déjà dans notre direction. « Je ne savais même pas qu'il y avait une route par ici, » dis-je en guise d'excuse d'une voix haletante à Œil de Nuit alors que nous dévalions le versant. Nous avions un petit avantage. Nous descendions en suivant notre propre trace, tandis que les chiens et les cavaliers devaient monter une pente couverte de neige vierge. J'espérais qu'au moment où ils parviendraient à la crête que nous venions de quitter, nous serions hors de vue, au fond de la ravine, au milieu des broussailles. Œil de Nuit retenait sa course pour éviter de me semer. Les chiens aboyaient, et j'entendais les voix excitées des hommes qui nous donnaient la chasse. « Sauve-toi » ordonnai-je à Œil de Nuit. « Je ne veux pas t'abandonner !»
Je n'aurais guère de chance de m'en tirer sans toi, reconnus-je. Je réfléchissais aussi vite que possible. Descends au fond de la ravine et fais le plus de fausses pistes que tu pourras. Reviens sur tes pas, va vers l'aval. Quand je te rejoindrai, nous gravirons le versant. Ça les retardera peut-être un moment. Des tours de renard, jeta-t-il avec mépris, avant de me dépasser comme une flèche grise et de s'évanouir dans les épais buissons de la ravine. J'essayais d'accélérer. À l'instant où j'allais atteindre le bord couvert de broussailles du vallon encaissé, je regardais derrière moi. Des chiens et des hommes franchissaient le sommet de la crête. Je gagnais à l'abri des buissons chargés de neige et dégringolais tant bien que mal la pente abrupte. Là, Œil de Nuit avait laissé autant de traces que toute une meute de loups. Alors que je m'arrêtais pour reprendre rapidement mon souffle, il me frôla. « Filons !» lui jetai-je au passage. Sans attendre sa réponse, je remontai la ravine aussi vite que mes jambes voulaient bien me porter. Tout au fond, la neige était moins épaisse, car les frondaisons en surplomb en avaient retenu la plus grande partie. Je courais presque plié en deux pour éviter de m'accrocher à de basses branches qui ne manqueraient pas de décharger sur moi leur fardeau glacé. Les abois des chiens résonnaient dans l'air froid. Je les écoutais attentivement tout en maintenant l'allure, et quand dans leurs cris, l'excitation laissa la place à la frustration, je sus qu'ils avaient atteint la piste brouillée au fond du val. C'était trop tôt. Ils y étaient parvenus trop tôt. Ils allaient se remettre trop vite à notre poursuite. Œil de Nuit.
Silence, étourdi. Les chiens vont nous entendre, et l'autre aussi.
Je crus que mon cœur allait cesser de battre. Comment avais-je pu être aussi stupide? Je fonçais dans les broussailles enneigées, tout en tendant l'oreille pour savoir ce qui se passait derrière nous. Les chasseurs s'étaient laissés berner par la fausse piste d'Œil de Nuit et forçaient les chiens à la suivre. Les cavaliers, trop nombreux dans la ravine exiguë, se gênaient mutuellement et piétinaient peut-être nos vraies traces. Autant de temps gagné, mais guère. Soudain, des cris d'effroi jaillirent et les chiens se mirent à glapir éperdument. Je captais des pensées canines stupéfaites. Un loup avait bondi au milieu d'eux et traversé la meute en donnant des coups de croc de droite et de gauche avant de filer entre les pattes des chevaux. Un homme était tombé par terre et s'efforçait de maîtriser sa monture aux yeux fous. Un chien avait perdu les trois quarts d'une de ses oreilles pendantes et souffrait le martyre. Je m'efforçais de fermer mon esprit à sa douleur, la pauvre bête, et tout cela pour rien. J'avais les jambes en plomb et la bouche sèche, mais je me forçais à courir toujours, afin de bien employer le temps gagné à si grand péril par Œil de Nuit. J'avais envie de lui crier de cesser ses escarmouches, de se sauver avec moi, mais je ne voulais pas courir le risque de trahir notre véritable position, et je continuais de m'éloigner. La ravine s'encaissait de plus en plus. Des plantes grimpantes, des ronces, des broussailles pendaient de ses versants escarpés. Il me semblait que je marchais sur un ruisseau gelé. Je commençais à chercher des yeux un chemin de sortie. Derrière moi, les chiens s'étaient remis à glapir pour s'informer qu'ils avaient trouvé la vraie piste, qu'il fallait suivre le loup, le loup. Le loup. Je compris alors qu'Œil de Nuit s'était montré une fois encore, afin de les entraîner loin de moi. « Sauve-toi, mon frère, sauve-toi » Il me lança cette pensée, sans se soucier que les chiens l'entendissent. J'y perçus un entrain effréné, une folie téméraire qui m'évoquèrent la nuit où j'avais poursuivi Justin à travers Castelserre, pour le massacrer devant tous les invités de la cérémonie où Royal avait été intronisé roi servant. Œil de Nuit était dans un tel état d'excitation qu'il ne s'inquiétait plus de sa propre sécurité. Je continuais ma course, le cœur étreint d'angoisse en refoulant les larmes qui me piquaient les yeux. J'arrivais au bout de la ravine. Devant moi se dressait une cascade de glace scintillante, monument au torrent de montagne qui dévalait l'encaissement durant les mois d'été. La glace s'accrochait en longues stalactites ridées aux rochers d'une fracture de la montagne et miroitait faiblement de la pellicule d'eau qui la recouvrait encore. Au pied de la cascade pétrifiée, la neige était cristalline. Je fis halte, craignant de poser le pied sur une couche de glace trop mince formée sur un profond bassin d'eau. Je levai les yeux. Les parois étaient minées à la base et couvertes d'une végétation trop dense. Plus loin, des plaques de roches nues apparaissaient au travers des draperies de neige. Des balivours abougris et des buissons dégingandés poussaient çà et là, tendus pour capter la maigre lumière qui tombait du haut de la ravine. Je ne voyais nulle part où tenter l'escalade. Je m'apprêtais à faire demi-tour quand j'entendis un hurlement s'élever, puis retomber. Cri, ni de chien ni de loup. Ce devait être la voix du corneau. Et j'y sentis une telle assurance que je n'eus pas le moindre doute. Il était sur ma piste. J'entendis un homme l'encourager et le chien aboya de nouveau plus près. Je me dirigeai vers la paroi et en commençai l'ascension.
L'homme se mit à crier et à siffler pour appeler ses compagnons. Il avait une piste d'homme qui laisse tomber le loup. Ce n'était qu'un tour de vif. Au loin, les abois des chiens changèrent de nature. À cet instant, je compris que Royal avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Un usager du vif pour me donner la chasse. Le lignage s'était laissé acheter. D'un bond, je m'accrochai à un jeune arbre en surplomb, me hissai, pris pied sur son tronc et tendis le bras pour en saisir un autre au-dessus de moi. Quand je m'y suspendis, ses racines s'arrachèrent au sol pierreux. Je tombai, mais réussis à me rattraper au premier. « Allez, il faut monter !» me dis-je résolument. Je me mis debout sur le tronc et je l'entendis craquer sous mon poids. J'empoignai des buissons qui pendaient de la paroi et m'efforçai de me hisser rapidement en évitant de rester suspendu aux arbustes ou aux broussailles plus de quelques instants. Des poignées de brindilles se brisèrent, des mottes d'herbe s'arrachèrent et je me retrouvai à jouer des pieds et des mains en dessous de la berge du ravin mais sans parvenir à l'escalader. J'entendis un cri et sans le vouloir, je jetai un coup d'œil. Un homme et un chien se tenaient dans la clairière en contrebas. Tandis que le chien aboyait, le museau dressé vers moi, l'homme encochait une flèche à son arc. Suspendu au-dessus d'eux, impuissant, je constituais une cible idéale. « Je vous en prie !» dis-je d'une voix hoquetante, puis je perçus le petit bruit reconnaissable entre tous, d'une corde d'arc relâchée. Je sentis un choc dans le dos, comme un coup de poing, une des petites méchancetés habituelles de Royal quand j'étais enfant, puis une douleur plus profonde, plus cuisante m'envahit. Une de mes mains lâcha prise. Je ne l'avais pas voulu. Elle s'était décrochée d'elle-même. Je restais agrippé par la main droite, ballant dans le vide. J'entendis très clairement les aboiements du chien qui avait senti l'odeur de mon sang. J'entendis le bruissement des vêtements de l'homme qui tirait une nouvelle flèche de son carquois. Une nouvelle douleur me mordit, au poignet droit cette fois. Avec un cri, j'ouvris la main. Dans un réflexe de terreur, je me mis à pédaler éperdument sur les broussailles qui pendaient au-dessus de la paroi à fouiller, et j'ignore par quel miracle je remontais la pente. Je sentis de la neige dure contre mon visage, et du bras gauche, j'effectuais de vagues mouvements de brasse. « Remonte les jambes !» jeta Œil de Nuit. Sans un jappement, car il avait planté ses crocs dans ma manche, et la chair de mon bras droit pour me tirer hors de la ravine. Savoir que j'avais encore une chance de survivre me rendit des forces, et je donnais de violentes ruades jusqu'à ce que je sente le sol ferme sous mon ventre. Je m'écartais du ravin en m'agrippant à la terre. Je m'efforçais de ne pas prêter attention à la douleur concentrée dans mon dos, mais qui de là se répandait partout en moi en vagues écarlates. Si je n'avais pas vu l'homme lancer sa flèche, j'aurais juré avoir un morceau de bois gros comme un essieu de chariot planté dans le dos.
« Debout, debout, il faut nous sauver !»
Je ne sais plus comment j'ai pu me redresser. J'entendais des chiens qui escaladaient la paroi derrière moi. Œil de Nuit s'écarta du bord et les accueillit à mesure qu'ils apparaissaient. Ses mâchoires les déchiraient et il rejetait les corps sur le reste de la meute. Quand à son tour le corneau au dos bouclé tomba, les abois décrurent soudain dans la ravine. Nous sentîmes tous deux sa souffrance et perçûmes les cris de l'homme en contrebas devant son compagnon de lien qui se vidait de son sang dans la neige. Alors, l'autre chasseur rappela ses chiens tout en affirmant d'un ton furieux aux cavaliers qu'il ne servait à rien de continuer à les envoyer au massacre. J'entendis en réponse les cris de rage et les jurons des hommes qui faisaient faire demi-tour à leurs chevaux épuisés dans l'espoir de trouver plus bas un passage pour quitter la ravine et tenter de reprendre notre piste. « Cours !» me lança Œil de Nuit. Nous n'avions pas envie de parler de ce que nous venions de faire. Une terrible sensation de chaleur, qui était aussi un froid glacial, s'étendait dans mon dos. Je portais la main à ma poitrine, en m'attendant à demi à sentir la tête et la hampe de la flèche pointée. Mais non, elle était profondément enfouie en moi. Je suivais Œil de Nuit d'un pas titubant, l'esprit balayé par de trop nombreuses sensations, par des douleurs trop différentes. Ma chemise et mon manteau tiraillaient la flèche au rythme de ma course, un fin mouvement que la tête répercutait au fond de ma poitrine. Quels nouveaux dégâts y faisait-elle? Je songeais aux occasions où j'avais dépecé des daims abattus à l'arc, à la chair mâchée, gorgée de sang, qui environnait leurs blessures. Le tireur m'avait-il perforé un poumon? Un daim touché là n'allait pas loin. Était-ce le goût du sang que j'avais au fond de la gorge?
« N'y pense pas !» me lança violemment Œil de Nuit. « Tu nous affaiblis, tous les deux. Marche, c'est tout. Marche, et ne t'arrête pas !»
Il savait donc comme moi que j'étais incapable de courir. Je marchais donc, et il marchait à mes côtés, cela pendant quelque temps, Puis je me retrouvais à progresser à l'aveuglette, dans le noir, sans même me soucier de la direction que je suivais, et le loup n'était plus là. Je le cherchais à tâtons, mais en vain. Quelque part, loin de moi, j'entendis à nouveau des aboiements. Je continuai à marcher, je me cognai à des arbres. Des branches m'égratignaient le visage, mais ce n'était pas grave, car j'avais la face engourdie, presque insensible. Dans mon dos, ma chemise n'était plus qu'une plaque gluante de sang coagulé qui m'irritait la peau. J'essayais de resserrer mon manteau autour de moi, mais l'élancement brutal faillit me jeter à genoux. Étais-je bête? J'avais oublié qu'il appuierait sur la flèche. Quel idiot! Allons, marche! Ne t'arrête pas! Je heurtais un nouvel arbre. Une avalanche de neige s'abattit sur moi. Je m'écartai en trébuchant et repris ma progression. Longtemps. Puis, je me retrouvai assis dans la neige, et j'avais de plus en plus froid. Il fallait que je me lève. Il fallait que je continue d'avancer. Je marchais. Pas très longtemps, je crois. À l'abri de grands conifères sous lesquels la couche de neige était moins épaisse, je tombai à genoux. « Par pitié !» dis-je. Je n'avais plus la force de pleurer. « Par pitié !» J'ignorais qui j'implorais ainsi. J'aperçus un creux entre deux grosses racines. Le sol y était couvert d'un tapis dense d'aiguilles. Je me ramassai dans ce petit espace. Je ne pouvais m'allonger à cause de la flèche qui saillait de mon dos, mais je pus appuyer mon front contre le tronc accueillant et croiser mes bras sur ma poitrine. Je me fis le plus petit possible en ramenant mes jambes sous moi et en m'enfonçant dans le creux entre les racines. J'aurais eu froid si je n'avais été si épuisé. Je sombrais dans le sommeil. À mon réveil, je ferais du feu pour avoir chaud. J'imaginais la chaleur du feu. Je la sentais presque. « Mon frère !»« Je suis là !» répondis-je calmement. « Tout prêt !» Je tendis mon esprit pour le rassurer. Il arrivait. Le pelage de sa gorge était hérissé de salive gelée, mais pas un croc ne l'avait touché. Il avait une entaille sur le côté du museau, mais sans gravité. Il avait entraîné nos poursuivants dans une course en cercle, puis avait harcelé les chevaux avant de les laisser patauger dans le noir, au milieu d'un creux de terrain rempli d'herbes hautes, recouvertes de neige. Seuls deux des chiens avaient survécu, et un des chevaux boitait si bas que son cavalier avait dû monter en croupe d'un de ses compagnons. Et il venait maintenant me rejoindre, en grimpant sans mal les pentes enneigées. Il était fatigué, certes, mais l'énergie de la victoire rayonnait en lui. L'air nocturne était sec et propre. Il capta l'odeur, puis le petit éclat de l'œil d'un lièvre qui se tapissait sous un buisson, dans l'espoir que le loup passerait sans le voir. Nous le vîmes. Un seul bond de côté, et le lièvre se retrouva entre ses mâchoires. Nous l'attrapâmes par la tête et lui brisâmes la nuque d'une saccade. Puis, nous reprîmes notre chemin avec le poids bienvenu entre les crocs. Nous mangerions bien ce soir. La forêt était noire et argentée autour de nous.
« Cesse, mon frère, ne fais pas ça !»
« Quoi donc ?»«
Je t'aime, mais je ne souhaite pas être toi. »
Je restais en suspens où j'étais. Ses poumons puissants aspiraient l'air glacé de la nuit. L'entaille à son museau le piquait légèrement. Ses pattes solides portaient sans mal son corps élancé.
« Toi non plus, tu ne souhaites pas être moi, changeur, pas vraiment. »
Je n'étais pas sûr qu'il eût raison. Par ses yeux, je me vis et me sentis. Je m'étais enfoncé dans le creux des racines du grand arbre, roulé en boule comme un chiot abandonné. L'odeur de mon sang envahissait l'air, et puis je battis des paupières et me retrouvai en train de regarder mon coude replié sur mon visage. Je levai la tête lentement, péniblement. J'avais mal partout, et la douleur irradiait de la flèche plantée dans mon dos. Je sentis une odeur de sang et de tripes de lièvre. Œil de Nuit se tenait à côté de moi, les pattes avant appuyées sur la carcasse qu'il déchirait.
« Mange, pendant que c'est chaud !»«
Je ne sais pas si je vais y arriver. »«
Veux-tu que je te mâche les morceaux ?»
Il ne plaisantait pas. Mais manger de la viande régurgitée me révulsait encore davantage que manger tout court, et je parvins à secouer la tête. Malgré mes doigts presque insensibles, je réussis à attraper le petit foie et à le porter à ma bouche. Il était chaud et gorgé de sang. Soudain, je me rendis compte qu'Œil de Nuit avait raison. Je devais manger parce que je devais vivre. Il avait coupé la bête en plusieurs morceaux. J'en pris un et mordis dans la chair tiède. Elle était dure, mais j'étais résolu à l'avaler. J'avais failli abandonner mon corps pour celui du loup.
m'installer à ses côtés dans cet organisme en parfaite santé. Je l'avais déjà fait une fois, avec son accord, et nous avions aujourd'hui plus d'expérience l'un et l'autre. Nous partagions, mais nous ne nous mélangions pas. Nous avions trop à y perdre. Lentement, je me redressais. Je sentis les muscles de mon dos frotter contre la flèche et protester contre cette gêne. Je sentis aussi le poids de la hampe de bois. Quand je l'imaginais qui pointait entre mes omoplates, je crus que j'allais vomir tout ce que j'avais mangé, et je m'apposai un calme que j'étais loin de ressentir. Soudain, l'image de Burick s'imposa sans prévenir à mon esprit, et je revis son visage de pierre au moment où il avait regardé se rouvrir sa vieille blessure alors qu'il pliait le genou. Je passai lentement ma main dans mon dos, suivis la colonne vertébrale du bout des doigts, en sentant les muscles se tendre contre la flèche, et touchai enfin le bois visqueux de la hampe. Ce seul effleurement me procura une nouvelle sorte de souffrance. Maladroitement, je refermai les doigts sur la flèche, serrai les paupières, et tentai de l'arracher. Même si elle n'avait pas été douloureuse, l'opération aurait été difficile. Mais la souffrance fit danser le monde autour de moi, et quand il eut repris sa stabilité, je me retrouvai à quatre pattes, la tête pendante. « Veux-tu que j'essaie ?» Je secouai la tête sans changer de position. J'avais trop peur de m'évanouir. Je m'efforçai de réfléchir. Si le loup extirpait la flèche, je perdrais connaissance, j'en étais sûr, et si la blessure saignait trop, je n'aurais aucun moyen d'arrêter l'hémorragie. Non. Mieux valait la laisser où elle était. Je rassemblai tout mon courage. Peux-tu la casser ? Il s'approcha de moi. Son museau frotta contre mon dos. Il tourna la tête de façon à refermer les molaires sur la hampe. Puis, il serra les mâchoires. Il y eut un petit bruit de cisaillement, tel celui d'une branchette coupée par un jardinier, suivi d'un frisson de souffrance. Une houle de vertige déferla en moi, mais je parvins à dégager mon manteau imbibé de sang du moignon de flèche et le serrai autour de moi en tremblant. Je fermai les yeux.
Non, fais d'abord du feu.
Je rouvris péniblement les paupières. C'était trop dur. Je rassemblai toutes les brindilles et les bouts de bois à portée de ma main. Œil de Nuit s'efforça de m'aider en allant me chercher des branches mortes. Mais il ne m'en fallut pas moins une éternité pour faire naître une flamme infime. Peu à peu, j'y ajoutai du petit bois. Alors que le feu avait bien démarré, je m'aperçus que l'aube était là. Il fallait reprendre la route. Nous restâmes le temps de terminer le lapin et pour ma part de me réchauffer convenablement les pieds et les mains. Après quoi, nous repartîmes. Œil de Nuit devant qui m'obligeait impitoyablement à mettre un pied devant l'autre.